Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors il emmena Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que les deux fils de Séphora. L'aîné s'appelait Gershom, émigré en ces lieux. Parce que Moïse avait dit « Je suis un émigré dans une terre étrangère ». Il avait nommé le cadet Eliezer, ce qui signifie « Mon Dieu me secourt », en disant « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro se rendit donc auprès de Moïse dans le désert avec la femme et les fils de Moïse près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles puis entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël qu'il avait délivré des Égyptiens. « Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il l'a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. » Puis Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ?» Moïse lui répondit « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi. » Et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Mais pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. » Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre la justice, réglant eux-mêmes les cas faciles et portant devant Moïse les affaires difficiles. Moïse prit congé de son beau-père qui reprit le chemin de son pays. Ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Ce chapitre 18 est un peu spécial quand même. On se demande un peu ce qu'il fait là. On a eu dans les premiers chapitres Dieu qui se révèle dans le buisson ardent, Dieu qui démontre sa puissance libératrice par les fléaux qu'il envoie sur l'Égypte, qui lui résiste, qui ouvre la mer Rouge, et puis la manne qui tombe du ciel pour nourrir son peuple, l'eau qui sort du rocher à Rephidim, chapitre précédent. Et puis on arrive à ce chapitre qui, on va dire, rompt un peu peut-être l'harmonie du récit, comme ça, depuis la sortie du peuple d'Égypte, avec un chapitre qui centre le projecteur sur une personne en particulier, à savoir Jéthro, le beau-père de Moïse. Et je vous propose de voir ensemble aujourd'hui la foi de cet homme, la foi de cet homme au Seigneur, alors qu'il est lui-même pas israélite. Et avec cette déclaration forte qu'il fait au verset 11, « À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Intéressons-nous un peu au contexte. Qui est Jéthro déjà ? Jéthro, le texte nous dit, il est prêtre de Madian. Donc on voit qu'il a déjà une casquette religieuse, et il vient de Madian. Alors on situe généralement Madian dans le haut de l'Arabie, et on sait que c'est là que Moïse s'est réfugié pendant un temps, alors qu'il avait commis un meurtre contre un Égyptien. Il s'est retrouvé du coup pourchassé parce qu'il avait commis ce mal, et donc il s'est enfui jusqu'au pays de Madian, où il aura finalement passé 40 années. Et c'est là qu'il va vivre, en tant que berger, et c'est là qu'il va refonder sa vie. Il va rencontrer sa femme, qui est une des filles de Jéthro. Voilà pour situer qui est Jéthro. Donc Jéthro, c'est le chef du clan familial que Moïse a rejoint pendant des années et des années. Donc c'est quelqu'un qui lui est proche, c'est quelqu'un qu'il connaît bien. Et nous retrouvons Jéthro alors qu'il vient en visite auprès de Moïse, et il vient avec sa fille Séphora, donc la femme de Moïse, et puis ses deux petits-enfants, Gershom et Eliezer. On n'a pas de précision exacte à quel moment ils sont rentrés à Madian auprès de Jéthro. Une des options, c'est qu'ils soient rentrés un peu avant que Moïse parte en Égypte pour aller affronter le Pharaon, peut-être pour des questions de sécurité. Ils sont restés auprès de la belle famille, et donc maintenant ils retrouvent sa femme et ses enfants après que Dieu les ait fait sortir d'Égypte avec Israël. Ou alors une deuxième option, c'est simplement que Séphora et ses deux enfants sont allés raconter, après avoir vécu eux-mêmes la sortie de l'Exode, sont allés visiter Jéthro pour lui rapporter tout ce que Dieu avait fait, et là ils reviennent avec lui. On n'est pas sûr que ce soit l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce qui nous est rapporté ici, c'est que Jéthro revient auprès de Moïse, et il a appris tout ce que l'Éternel a fait. Et on voit donc cette discussion qui s'entame après qu'ils aient passé du temps dans les salutations. Ils vont sous la tente, et le texte nous dit « Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et comment l'Éternel les en avait délivrés. » Moïse lui raconte. Moïse proclame ce que Dieu a fait. C'est un thème tellement fréquent dans le texte biblique, de raconter les hauts faits accomplis par Dieu. On a lu dans le psaume ce matin, publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses prodiges chez tous les peuples. Nous sommes invités à raconter ce que Dieu a fait. Et à plus forte raison, imaginez les Israélites après ce qu'ils ont vécu là, en Égypte. La main de Dieu qui a frappé l'Égypte, qui les oppressait, avec tous ces fléaux qui sont tombés, avec Moïse, qui est ce médiateur par lequel Dieu juge le Pharaon, la mer qui s'ouvre. Je ne sais pas si vous imaginez ça, mais moi, j'imagine que si j'ai vécu ça, je pense que je le raconterai à tout le monde, parce que c'est juste complètement dingue. Donc, c'est normal qu'on vienne raconter les prodiges que Dieu a fait. Vous imaginez l'enthousiasme de Moïse, raconter ce qu'il a fait. On n'avait plus rien à manger dans le désert. Dieu nous a envoyé à manger du ciel. On arrivait à un endroit, on était assoiffé, on allait mourir de soif dans le désert. Dieu a fait couler de l'eau du rocher. Vous imaginez, est-ce qu'on peut l'enthousiasme que Moïse a pu avoir à raconter tout ça. Et la Bible nous montre qui est Dieu par ce qu'il a fait. Et on retrouve à plusieurs reprises lorsque il est demandé, mais qui est l'Éternel ? Par exemple, lorsque les enfants d'Israël, les enfants dans le sens les jeunes enfants, posent des questions sur l'Éternel, posent des questions, mais pourquoi on vit comme ça ? Pourquoi on suit ces lois, etc. ? Le texte nous dit, mais tu vas répondre. Et l'explication commence toujours par, nous étions esclaves en Égypte. Je vais te raconter qui est Dieu. Je vais te raconter pourquoi on vit comme ça. Tout commence en Égypte. On était esclaves en Égypte. Et voilà ce que Dieu a fait. Donc, quand la question est posée, qui est Dieu ? C'est une histoire qui est racontée. On était esclaves en Égypte. Voilà qui est Dieu. Voilà comment il est. Par ce qu'il a fait, on découvre qui est Dieu. Et finalement, si on retourne un peu plus tôt dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, et il lui a dit, voilà ce que je vais faire. Je vais t'envoyer et je vais délivrer mon peuple afin que ma renommée se répande sur toute la terre. C'est le plan de Dieu qu'il agisse dans l'histoire de ce petit peuple opprimé pour révéler qui il est et que sa renommée se répande sur toute la terre. Donc lorsque Moïse est en train de raconter ce que Dieu a fait, il est en train d'accomplir le projet, la mission que Dieu donne à son peuple. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous retrouvons cette mission qui est rappelée, notamment par les prophètes, les envoyés de Dieu. Vous êtes censés nous dire à tout le monde qui est Dieu. Parce que vous avez été bénéficiaires de ce que Dieu fait. Dieu est présent au milieu de vous. Et on va arriver un peu plus loin dans le texte. Dieu va donner sa loi à son peuple. Et il va se révéler aussi, on y reviendra tout à l'heure, par sa loi. Mais donc, telle est la mission. Le peuple de Dieu doit raconter sur toute la terre tout ce que Dieu a fait. Et vous voyez que le fil rouge, ce fil rouge-là de raconter ce que Dieu a fait, il se poursuit dans toute la Bible, parce qu'on vient de terminer il y a quelques semaines une série dans le livre des Actes des Apôtres, et c'est exactement ce qu'ont fait les disciples de Jésus. Ils ont raconté ce que Dieu avait fait. Alors l'histoire a continué au travers d'un homme qui était l'envoyé de Dieu, le Messie. Dieu a continué d'écrire l'histoire, et une histoire de rédemption encore plus grande. Et c'est cette histoire-là que les disciples ont racontée. La mission reste la même pour le peuple de Dieu. C'est de faire découvrir Dieu, de raconter, simplement. Ce n'est pas d'inventer en disant, alors voilà, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, voilà ce qu'il aime. Voilà. En fait, Dieu s'est révélé. Il a choisi de se révéler en intervenant dans l'histoire avec un grand H. Et ici, on a quelque chose de tout à fait particulier et précieux le cœur de notre foi chrétienne. C'est que nous croyons dans un Dieu qui a agi dans l'histoire avec un grand H. Ce n'est pas simplement une philosophie de vie, des valeurs de vie. C'est pour ça que quand on va parcourir là, les petits groupes sur les valeurs essentielles de la vie, on peut aussi brasser du vent en discutant des valeurs de la vie. Non, non. Les valeurs que Dieu nous donne, en fait, s'inscrivent dans son identité, dans sa personne et dans ce qu'il a accompli. Et nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui est intervenu dans l'histoire. Et c'est très important. Notre foi n'est pas basée juste sur une révélation mystique que quelqu'un aurait eue dans une grotte, etc. Non, c'est ancré dans une histoire sur des milliers d'années dont ont rendu témoignage des hommes et des femmes qui ont consigné par écrit ce que Dieu a fait. Et ça, ça rend notre foi solide. C'est pas juste un homme qui a eu une révélation et qui dit, voilà, Dieu m'a parlé et j'ai écrit sur des tables en pierre ce que Dieu m'a dit. Il y en a quelques-uns dans l'histoire et il y en a toujours qui continuent à écrire des trucs comme ça en disant Dieu m'est apparu et voilà la révélation qu'il m'a donnée. Mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins fiable. C'est du vent par rapport à la révélation que Dieu nous a donnée. Soyons-en encouragés et fortifiés par ça. Est-ce qu'on raconte ce que Dieu a fait ? C'est ce que Moïse a fait ici. Vous savez, autour de nous, pas mal de personnes ne connaissent pas vraiment le Dieu de la Bible, ne connaissent pas la Bible tout court. C'est à nous de leur raconter ce que Dieu a fait. Il n'y a pas besoin forcément de prendre un livre de la Bible et de raconter une section énorme et imbuvable que la personne ne peut pas comprendre. Mais ne serait-ce que même de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie, dans des choses simples, pour dire « mais regardez ce que Dieu peut faire ». Dans des cas très précis, c'était étonnant. Mardi, on a repris nos cours de gospel et Naomi a eu une discussion avec une des choristes à la pause. On ne l'avait pas vue depuis un bon bout de temps. Et elle est revenue sur quelque chose que Naomi avait raconté lors d'une répétition. Je ne sais même plus d'où ça venait, hein, mais souvent ça part d'une explication autour d'un chant. Et ce jour-là, Naomi, elle avait parlé du fait que de ce que Dieu avait pu lui donner de grandir dans sa gestion de la colère. Qu'à un moment donné, il y avait quelque chose que Dieu avait pointé le doigt par rapport à ça, et puis elle a dit, voilà, j'ai prié, j'ai prié, et Dieu a répondu. Et c'était juste une petite séquence lors d'une répétition, il y a peut-être 5 mois, j'en sais rien. Et cette choriste-là, juste à la pause, mardi, c'est un peu sorti de nulle part, elle lui a dit, je me souviens que tu as parlé de la colère, et quand moi-même je suis en proie à la colère, je me souviens de ce que tu as dit, et j'essaye du coup de gérer ma colère ou quoi. Mais en tout cas, ce qui était incroyable, c'est qu'elle a été marquée par quelque chose qui semblait tout simple et banal peut-être pour quelqu'un qui est chrétien et qui vit des choses avec Dieu, mais elle a été marquée par ça. Et les gens sont marqués parfois par des choses toutes simples qu'on a dit. Tôt ou tard, on a ces discussions-là qui peuvent entrer en ligne de compte, par exemple par rapport à une difficulté qu'on a eue, et puis on a un ami ou un collègue qui nous rapporte une situation un peu similaire, et juste de lui avoir dit, bah, tu sais, moi je suis passé par là, et le fait de connaître Dieu, ça m'a beaucoup aidé. C'était juste ça que j'ai dit, et peut-être ça a un impact considérable de raconter ce que Dieu a fait. Raconter ce que Dieu a fait, c'était aussi dimanche dernier avec Rose qui nous a simplement témoigné comment Dieu avait été à l'œuvre dans des cas très précis. C'est notre privilège et notre mission simplement de raconter, de dire voilà ce que j'ai vécu. Et ainsi Dieu est révélé. Et regardez comment ça avance dans l'histoire. Ici, Moïse raconte et Jéthro reconnaît. Moïse raconte. Jéthro reconnaît. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il l'a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. Lorsqu'on raconte qui est Dieu et que ça touche le cœur de la personne qui entend, les yeux sont ouverts et par la grâce de Dieu, la personne vient à connaître Dieu, dire « mais je reconnais ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu ». Magnifique. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est dans la réaction de Jéthro. C'est de retrouver le verset. C'est verset 9. Après que Moïse lui a raconté tout ce que Dieu a fait en les délivrant des Égyptiens et de toutes les difficultés qu'ils ont eues dans le désert, la faim, la soif, tout ça, Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël. Jéthro se réjouit. Et je crois que quand on entend ce que Dieu a fait, Dieu vient nourrir notre joie. Parce que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Et lorsqu'on entend ce que Dieu fait, ça suscite ça en nous. Ça suscite la joie. Il n'y a rien de plus beau que de vivre cette joie, la joie de ce que l'Éternel a fait. Et aujourd'hui, on peut dire que cette joie nous anime parce que nous sommes porteurs de la meilleure nouvelle au monde. On parle souvent de bonne nouvelle, évangile, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes porteurs de la meilleure nouvelle au monde. Et les gens autour de nous doivent savoir ceci. Dieu existe. Et il nous aime. Malgré tout ce qu'on est. Dieu existe et il nous aime, malgré tout ce qu'on est. Il nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. C'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut en connaître. Je reprends les paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens qu'on est en train de parcourir dans l'étude de la Bible les mercredis. C'est ça, la meilleure nouvelle au monde que nous portons et qui est là pour susciter notre joie et nous permettre d'entrer en communion avec le Dieu vivant et vrai. Conclusion, Moïse raconte, Jéthro reconnaît, et Jéthro, beau-père de Moïse, nous dit le texte ensuite, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement consumé, entièrement brûlé, tout simplement. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Jéthro termine dans cette reconnaissance, cette adoration de Dieu par un sacrifice de reconnaissance et d'adoration probablement, qui se prolonge par un repas. Souvenez-vous que Moïse, au Pharaon, avait demandé de laisser aller son peuple pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est dans Exode chapitre 8. Ce qu'il devait demander au Pharaon, c'était « Permets-nous d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Eh bien, complètement inattendu, c'est un non-israélite qu'on voit faire le premier sacrifice après avoir quitté la terre d'esclavage. C'est Jéthro, ce non-israélite, ce madianite, qui vient présenter un sacrifice pour l'Éternel. C'est lui-même qui, d'après le texte, accomplit le rituel. On nous a dit au début du texte qu'il était prêtre de Madian, il était le chef de famille, il était le patriarche. Le patriarche, c'est dans l'Antiquité celui qui a à la fois un pouvoir d'ordre politique et d'ordre religieux à la fois. Donc il agit en tant que représentant de la famille, du clan, tant pour les décisions politiques que les décisions religieuses. Et c'est ce que Jéthro a comme rôle ici. Et c'est quand même pas banal que ce soit Jéthro qui fait le sacrifice, surtout qu'il y a mention d'Aaron juste derrière. Donc on verra que Dieu va instituer bien les choses comme il faut pour séparer les tâches et que ce sera seulement la famille d'Aaron qui sera chargée des sacrifices et la tribu de Lévi du service dans le temple. Ça sera ensuite codifié par Dieu. Mais ici, c'est un étranger qui vient, qui fait le sacrifice. Ça nous laisse entendre que Jéthro est accueilli comme un véritable croyant. C'est pas juste un étranger sympathisant, un vieil oncle d'un pays étranger. Il est accueilli comme un véritable croyant, puisque Aaron et les responsables d'Israël s'associent à lui pour un repas de communion, un repas sacré, nous dit le texte, en présence de Dieu. Ça, à chaque fois, ça me scotche. Et à plusieurs reprises, on voit ça, on le verra un peu plus loin dans l'Exode, Moïse et les responsables d'Israël là-haut sur la montagne, en présence de Dieu. Cette communion. Et comment ne pas penser à cette communion que nous pouvons vivre en tant que membres du peuple de Dieu aujourd'hui en partageant un repas, alors un repas simplifié, le pain et le vin, mais ce repas que Jésus a demandé que tous ses disciples prennent ensemble en signe de cette communion ensemble et avec Dieu. Ce repas qui unit des hommes et des femmes de tous les peuples, unis par le même Seigneur, unis par le même Esprit. Et on a ici en prémisse, en anticipation, comment Dieu agit pour tous les hommes. On a cet homme qui est un Madianite, un étranger, qui est accueilli comme un véritable croyant. Il y en aura d'autres dans l'histoire d'Israël, ici ou là. On a textuellement la même déclaration chez un Syrien qui s'appelle Naaman, qui est un commandant des armées de Syrie, qui, après avoir vécu une guérison miraculeuse, s'écrit « Je reconnais que Dieu est le seul vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui ». je paraphrase mal, c'est dans 2 Rois chapitre 5, on trouve ça, donc c'est un peu plus tard. Donc il y a des étrangers aussi qui vont venir à la foi et qui louent Dieu et qui sont intégrés au peuple de Dieu. Mais là, on a quelque chose de tout à fait nouveau qui émerge là chez Jéthro.
Je vais te poser une question.
Oui, vas-y, Olivier. Oui.
Jéthro, tu sais, il était prêtre de quoi au départ, quelle religion, enfin quelle...
Je pense que le texte précise pas trop, précise pas exactement les croyances. C'est ouais. Tellement ancien et on a en fait très peu de ressources sur les Madianites.
Ouais,
en fait, en dehors de la Bible, on connaît très peu sur les Madianites. En fait, on sait que c'était probablement un peuple nomade qui vivait dans cette région-là. Peut-être qu'il vivait un peu plus d'une manière un peu plus étendue. Mais tous ces peuples-là qui sont nomades, c'est quasiment insaisissable en fait. Surtout vu que là, dans le temps, en fait, on est à peu près autour de 1500 avant Jésus-Christ. C'est très difficile d'avoir des données fiables, mais on peut avoir des indices par rapport à la religion qu'on voit chez les peuples du Proche-Orient. C'était souvent des peuples polythéistes, etc. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait plus grand que tous les dieux. Mais dans le texte biblique, il n'y a pas d'autres dieux, donc il n'y a pas tous les dieux. Les autres dieux sont des néants. C'est des néants, ils n'existent pas, c'est de la fumée, c'est hein, ça c'est la perspective biblique. Ces autres dieux n'existent pas. Donc voilà ce qu'on sait au sujet de Jéthro, mais on voit qu'il agit ici comme un véritable croyant, comme quelqu'un qui s'est converti en fait, si on voudrait utiliser les mots plus chrétiens d'aujourd'hui. Et on voit qu'il partage ce repas de communion avec les responsables. Et ce repas donc, nous parle peut-être aussi de cette communion qu'on peut vivre ensemble, et il anticipe ce grand repas dont la Bible nous parle à venir, ce festin en présence de Dieu auquel toutes les nations sont invitées. Et il nous en est parlé dans bien des endroits, mais il y a un texte très beau qu'on retrouve quelques siècles plus tard chez le prophète Ésaïe, et qui annonce « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne. » Alors, quand il parle de « sur cette montagne », pour le coup, ce n'est pas le mont Sinaï quand il parle, mais c'est le mont Sion, c'est la Jérusalem, en fait. C'est là où Dieu se rend présent dans la suite avec le temple. « Dieu préparera lui-même, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout plein de moelle, arrosé de vin vieux et dûment clarifié. Et il déchirera là sur cette montagne le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions, il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous puisqu'il nous a sauvés. Cette joie qui accompagne le festin en présence de Dieu est le dernier livre de la Bible. Dans cette vision que Dieu donne à l'apôtre Jean, nous parle aussi de cette réjouissance au milieu d'un chant nouveau, où Dieu est adoré comme le seul digne, en l'occurrence l'agneau de Dieu, Jésus, le seul digne de recevoir le livre, d'en briser les sceaux, parce qu'il a donné sa vie. Et il a racheté pour Dieu, grâce à son sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Vous voyez qu'on a parcouru toute la Bible à partir de cette rencontre de Jéthro avec Moïse, parce qu'il y a quelque chose qui est dépeint là, qui nous annonce ce que Dieu va faire. Alors je vais aller un peu plus vite sur la deuxième partie du texte, où on retrouve le lendemain cette situation où Moïse exerce la justice, et puis Jéthro qui va lui donner des conseils en lui disant de choisir parmi le peuple des hommes pour juger les affaires ordinaires, des hommes qui craignent Dieu, qui sont respectueux de la vérité, qu'on ne peut pas corrompre, afin qu'ils puissent aider Moïse dans sa tâche. Alors, c'est un peu étonnant quand justement on arrive aussi dans cette deuxième partie du texte, on a l'impression d'avoir une leçon de management des ressources humaines, que Jéthro vient intervenir comme un consultant avec son PowerPoint, il va lui expliquer à Moïse, écoute, voilà, j'ai fait un petit audit sur comment ça se passe ici, c'est pas terrible, je vais te donner quelques clés, quelques pistes d'action pour que tu puisses un peu mieux gérer le peuple. Donc, c'est un peu étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Moïse reçoit avec humilité le conseil donné par son beau-père. Alors, peut-être qu'il y a un respect des anciens, etc., mais quand même, c'est Moïse, l'homme de Dieu, c'est Moïse qui a rencontré Dieu dans le buisson ardent, c'est Moïse qui a été l'intermédiaire pour faire sortir son peuple de l'Exode, c'est lui qui avait le bâton en main, vous voyez. Et il y a Jéthro, le beau-père, qui vient, qui lui explique tout ce qu'il doit changer. Mais c'est incroyable de voir comment Moïse, l'homme de Dieu, écoute, il reçoit et il met en place quelque chose qui est une réforme assez grande quand même dans le fonctionnement, l'administration de ce peuple. On pourrait noter que Dieu se plaît à agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'il peut utiliser qui il veut pour instruire son peuple, peut utiliser qui il veut pour nous conduire. Peut-être que dans votre vie, certains des meilleurs conseils que vous avez reçus, c'est pas du tout un chrétien qui vous l'a donné. Et Dieu est bon, Dieu il peut nous parler par n'importe qui, et on a besoin d'être à l'écoute parce que Dieu fait grâce, et il bénit aussi des gens qui sont avisés, qui sont compétents, qui ont de l'expérience, et on doit le recevoir comme aussi un don de Dieu qui nous fait. Sa générosité est grande. Et ouais, soyons aussi à l'écoute des personnes de valeur que Dieu met sur notre route, même s'ils ne partagent pas notre foi aujourd'hui. Mais un point plus important par rapport à cette séquence-là, le texte, je crois, doit aller plus loin que de nous enseigner une leçon de, comme je dis, de management des ressources humaines, qu'il est bon de déléguer, et il est bon, effectivement, pour quelqu'un comme Moïse qui dirige un peuple, de déléguer les affaires ordinaires. Mais en fait, pourquoi ce texte est là? Pourquoi ce texte un peu étonnant qui contraste avec le récit précédent? C'est que ce texte fait transition dans le livre, une transition vers la loi. Et ça occupera la deuxième partie du livre de l'Exode. Dieu va donner sa loi, va faire alliance avec son peuple et lui donner ses ordonnances. C'est un texte donc charnière qui nous projette vers une nouvelle phase dans la vie du peuple de Dieu. L'Éternel a délivré son peuple, il a manifesté qui il est et il va faire alliance et va lui donner sa loi selon laquelle il doit marcher. Désormais, il devra vivre selon les ordonnances et les lois données par Dieu. Et ça sera pour Israël une bénédiction, parce que sa loi est bonne. Et on y viendra, on va passer du temps aussi sur ces 10 commandements qui condensent un peu ce que Dieu veut pour son peuple, au chapitre 20. Mais c'est une bénédiction pour son peuple. Et c'est aussi un témoignage. Parce que lorsqu'on vient à découvrir la loi de Dieu, on apprend qui est Dieu. Au début des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu est le seul et l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. On apprend déjà que Dieu est le seul vrai Dieu, le seul Dieu. Un peu plus loin, il l'invite à respecter un jour de repos, un jour de sabbat, pour l'adorer, mais aussi pour se reposer. Le mot sabbat, ça veut dire cesser. C'est cesser son travail, shabbat. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Ben, Dieu est juste et bon. Il veut qu'on puisse souffler. Et le texte nous dit, tu respecteras ce jour de sabbat, ta femme, tes enfants, tes esclaves, tes animaux. Il ne s'agit pas de dire, ok, moi je suis off aujourd'hui, mais vous allez cravacher, parce que moi je suis off, donc il faut que l'affaire continue. Non, du plus petit jusqu'au plus grand, Dieu est juste et bon, il ne fait pas de discrimination, même les animaux. Tu ne vas pas continuer à faire bosser ton animal le septième jour. Donc on apprend tellement, on va passer du temps. Mais donc ce texte fait transition, ce texte un peu atypique, chapitre 18, fait transition. Il nous montre quelque chose de magnifique, la foi d'un homme israélite dans le Seigneur, qui nous annonce l'intégration des nations, de ceux qui ne sont pas juifs, dans le plan de Dieu, qui a été toujours de bénir toutes les nations. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Alors j'aimerais terminer justement sur cette réponse que Jéthro a apportée lorsqu'il a connu qui était Dieu. Parce que ce non-juif, cet homme qui représente une nation non-israélite, contraste énormément avec une autre attitude dans le chapitre précédent d'un peuple aussi non-israélite. Il est question des Amalécites. On n'a pas lu ce texte-là, c'est à la fin du chapitre 17, vous pouvez le lire à la maison. C'est un peuple nomade qui vient lui aussi à la rencontre de Moïse et du peuple, mais pas avec les mêmes intentions que Jéthro. Il vient pour les attaquer. Ils viennent attaquer Israël à Réphidim, là où Dieu avait donné de l'eau à boire miraculeusement. Ils viennent combattre les Amalécites, et donc Moïse va lever des hommes pour aller combattre, et conformément à ce que Dieu lui a dit, là, sur une colline, Moïse va se tenir le bras levé avec le bâton de Dieu en main. Ce bâton par lequel le jugement de Dieu était tombé sur l'Égypte, ce bâton-là, il est pointé sur Amalek. Amalek, ce peuple ennemi qui est en quelque sorte aussi une figure plus large même de l'ennemi de Dieu qui s'élève contre lui. Le texte nous dit à la fin que Dieu a décidé de d'éliminer pour toujours ce peuple. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement une petite bataille locale, mais que ce texte-là symbolise plus grand, symbolise l'hostilité contre Dieu lui-même. Lorsqu'on s'attaque à son peuple, on s'attaque à Dieu lui-même. Réphidim symbolise la bataille qui fait rage depuis la chute, depuis que l'homme s'est révolté contre Dieu. Cette bataille renvoie à l'hostilité même entre Dieu et Satan. Et ce texte nous apprend que l'Éternel est le Tout-Puissant et qu'on ne peut pas s'attaquer à lui impunément. On l'a vu avec Pharaon et ses faux dieux d'Égypte que Dieu a soumis, que Dieu a vaincu. Le texte nous dit ici au chapitre 17 que les Amalécites ont levé la main contre le trône de l'Éternel. Ils ont fait ça en s'attaquant au peuple de Dieu, donc en combattant Dieu lui-même. Et donc ils ont levé la main contre le trône de Dieu, mais c'est Dieu qui va lever la main par la main de Moïse et par ce bâton montrer qu'il exerce son jugement. Alors, on n'est pas toujours très à l'aise avec les textes du jugement dans la Bible, on ne sait pas trop toujours comment les prendre. Et puis parfois vous entendez peut-être des amis qui ne connaissent pas très bien la foi chrétienne qui vont dire « Ah mais moi je ne veux pas de ce Dieu qui est un Dieu terrible, ce Dieu de l'Ancien Testament qui fait couler du sang, etc. » Mais cette histoire qui se passe sur une colline avec Moïse le bras levé pour défendre son peuple, cette histoire nous entraîne sur une autre colline, et là je reprends un commentaire magnifique, je trouve, de Tim Chester dans son commentaire sur le livre de l'Exode. Il nous dit, je cite, « Cette histoire nous entraîne sur une autre colline, où un autre homme a lui aussi tendu les mains dans un contexte de jugement. Dans cette autre histoire, le peuple de Dieu est libéré, là encore, du jugement divin. » Ses ennemis sont vaincus. Une différence de taille, toutefois. Si Moïse a étendu les mains pour prononcer le jugement, Jésus, lui, les a étendues pour le recevoir. Vous voyez comment le Dieu juste et bon est annoncé dans toute la Bible, parce que le jugement qui pesait sur nous, il l'a pris lui-même sur lui. lorsqu'on entend ce que Dieu a fait, et notamment ce qu'il a fait sur cette colline, à Golgotha et à Dorion, quelle réponse vais-je lui apporter à ce Dieu qui se révèle ? À l'exemple de Jéthro, le non-israélite, est-ce que je vais placer ma confiance en l'Éternel et reconnaître qu'il est plus grand que tous les faux dieux ? Il est plus grand que quiconque, qu'il est le plus grand, non seulement par sa puissance, mais par la puissance de sa grâce.